Paso Doble.
Paso Doble.
Le grand entretien culture des petits matins. Lundi, littérature.
Et c'est reparti. Je suis particulièrement ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. J'espère que vous avez passé un excellent été. Bonjour Céline Minard.
Bonjour Toufik Hakem.
Ravi de commencer la saison avec vous et autour de votre dernier roman paru chez Rivage la semaine dernière et qui a pour titre « Le grand jeu ». C'est l'histoire d'une femme qui décide de tout abandonner pour aller s'isoler dans un refuge et dans une maison qu'elle a fait construire, une maison accrochée à une paroi d'un massif montagneux. C'est un habitat high-tech, minutieusement pensé, dessiné et qui ressemble au fuselage d'un avion posé en équilibre entre le vide et la pierre. Quand l'hélicoptère qui la dépose dès la première page de votre roman reprend son envol, la voilà seule face à la nature, seule comme si elle était dans une planète inhabitée, seule, isolée, à près de 2000 mètres d'altitude. Mais pourquoi Céline Minard, pourquoi cette femme dont on ne sait rien vient-elle s'isoler dans cet endroit si près du ciel et des vautours et si loin des humains? Pourquoi se met-elle à l'épreuve des conditions extrêmes, de la brutalité des éléments?
Parce qu'elle pense que cette situation, à moitié dans le vide, à moitié sur Terre, en prise avec les éléments et les climats forts, va avoir la même fonction pour elle que pour son habitat, qui a été dessiné pour résister au vent, pour ne pas accumuler trop de neige, qui est autonome énergétiquement. Et elle pense que ça va avoir le même sens et la même fonction pour elle, c'est-à-dire pour son corps et pour sa pensée.
Mais pourquoi cet isolement ?
Là, c'est parce qu'elle a envie d'être... pas de faire un point, mais plutôt de tirer des lignes, et un peu en tout sens, et aussi des lignes verticales. Elle est seule parce qu'elle s'est retirée, c'est une retraite, et qu'elle s'est mise dans cette situation d'isolement pour réfléchir, en fait, à qu'est-ce que c'est qu'une relation humaine. Et plus précisément, qu'est-ce que ce serait qu'une relation humaine qui serait ni dans la menace, ni dans la promesse.
Et ce refuge, cet endroit, cette montagne, existe vraiment, Céline Minard, ou c'est le fruit de votre imagination ?
Elle n'existe pas vraiment, mais elle a été très inspirée par un séjour que j'ai fait de 3-4 mois dans les Pyrénées, mais c'est une topographie qui m'a donné la réplique quand j'écrivais Le Grand Jeu, mais qui est revenue transfigurée, asséchée, pas agrandie, mais simplifiée aussi, parce que la montagne et la vraie, c'est vraiment très compliqué.
Un extrait de votre roman ?
Les éléments sont exagérés. Depuis 4 jours, c'est le vent. Il détrône la chaleur. Il la pousse dans la vallée à grands coups de trompe. Plus rien n'est immobile. Les insectes ne décident plus de leur trajectoire. Les jets rasent la pelouse pour éviter les bourrasques. Les rapaces, à l'inverse, prennent de la hauteur. Tout bouge, le moindre brin d'herbe, l'aiguille la plus enfouie dans la pelote des pins, les crottes des isards sur les cailloux. Il n'y a pas de rémission. Rien ne s'arrête. Le calme est un moment de suspension entre une tempête et une autre, plus chaude. Lorsqu'il s'installe, il est si surprenant, si dense, qu'il devient une matière, une forme de l'air. Ce monde n'est pas fait pour nous, et c'est un immense soulagement. Il n'est pas fait pour nous. On peut donc y vivre si on y parvient.
C'est étrange d'entendre parler votre narratrice ainsi, Céline Minard. Ce monde n'est pas fait pour nous, et ça la réconforte de pouvoir le dire.
Oui, ça la réconforte. Parce que ce monde n'est pas fait pour nous, mais il est ouvert. Ce qui la réconforte, je pense, c'est de pouvoir penser sa place dans un tout qui n'est pas habitable, qui n'est pas très investi par l'humain, parce que c'est trop dur, les conditions sont trop dures. Et précisément, cette retraite n'est pas un lieu de repos, pas du tout. C'est un lieu de mouvement et c'est un lieu de risque où elle s'est placée pour être en mouvement, pour que les éléments l'obligent à l'être et à trouver aussi un chemin, peut-être pas si droit que ça, mais un chemin guidé par quelque chose de plus vaste qu'elle et de plus vaste que l'homme.
Mais on ne connaît pas son prénom, on ne sait rien d'elle. Qui est cette femme, Céline Minard ? À quoi pouvait ressembler sa vie antérieure ?
Ça, j'en sais rien du tout et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la situation dans laquelle elle s'est mise. Et je pense que ce n'est pas un jeu, les jeux des réflexions et les jeux des explorations, c'est un jeu pas si personnel que ça. C'est un jeu conceptuel aussi. Et ça, c'est important parce que ça fait partie de l'exercice de détachement auquel elle s'astreint.
Mais pourquoi vouloir justement avoir affaire à ce vide, à s'imposer cette épreuve, Céline Minard ? Parce que on devine que cette femme qui a fait construire cet habitacle high-tech, écolo, on l'imagine même beau, ce refuge. Elle a les moyens. Elle a les moyens de se permettre de vivre à l'écart du monde, loin des humains qui lui ont fait mal. Mais elle va plus loin. Elle cherche l'adversité, l'adversité avec les éléments.
Je ne sais pas si c'est une adversité qu'elle cherche, mais plutôt réellement un guide ou quelque chose qui lui donne forme ou qui la... mais lui donne une forme éthique presque. Hein. C'est une retraite de construction, de détachement et de construction. Elle a les moyens, effectivement, et d'ailleurs il faut avoir les moyens de le faire pour vivre hors société. Et c'est aussi une question, est-ce que si on a les moyens de le faire, on doit le faire ? C'est aussi une des questions du livre. Est-ce que l'autarcie, l'autonomie et la retraite absolue est quelque chose de désirable et quelque chose de viable ? C'est pas sûr.
Et vous avez des réponses, vous, Céline Minard, à sa place ? Ou ce qui vous intéresse, c'est d'accompagner ces questionnements ?
J'ai pas de réponse. Je pense qu'il y a plusieurs pistes de réponse dans le livre. Il y en a pas une, il y en a il y a aussi des articulations, peut-être, qui sont plus intéressantes que des réponses absolument. Je pense que, justement, la suspension de la réponse à ce genre de questions est plus fructueuse que oui, non.
À certains moments, elle se pose la question, mais qu'est-ce que je fous là ? Dans quel genre relève l'activité qui me met dans la situation d'être oppressée par une chute si ralentie qu'elle entore ma perception du temps ? Un loisir ? Une occupation contemplative, sportive, mentale ? Une expérience ? Une pratique du détachement ?
Oui, c'est tout ça en même temps. Je pense profondément que c'est une ascèse et qu'elle l'a mise en place de cette façon-là, c'est-à-dire assez complexe, complète aussi, physique, évidemment, avec cette affaire d'exploration et de grimpe. Et puis ces carnets qu'elle tient font partie de cette ascèse. Et d'ailleurs, elle construit la montagne et le territoire qu'elle occupe sa réflexion de la même façon. C'est plusieurs facettes de la même question, comment vivre, avec plusieurs moyens de réponse, physiques, psychiques, imaginaires et philosophiques.
Comment vivre et où vivre ? Dans votre roman, Céline Minard, vous décrivez très bien la nature, les éléments, les itinéraires, mais aussi cette maison que votre protagoniste a imaginée, cet ovni. Est-ce que pour cela, vous avez travaillé avec des architectes ? Vous avez dessiné cette maison un peu comme Hergé quand il dessinait lui-même la fusée avant de se lancer dans l'aventure de raconter la Lune, le voyage à la Lune.
mais même pas parce que elle existe, Ça existe, ce refuge.
C'est, ah bon, il existe.
J'ai effectivement travaillé avec des architectes. Enfin, ils ont surtout travaillé tout seuls. Et je m'en suis beaucoup inspirée. Et, mais c'est un, il y a un refuge comme ça, exactement comme ça, en Suisse, enfin, entre la Suisse et l'Italie, qui a fait beaucoup de polémiques quand même, parce que ça a beau être écolo, etc., ça demande un héliportage, enfin bref.
Et vous êtes rentré sur place?
C'est esthétiquement un peu bizarre, non. Non, non, ça, je pratique pas les territoires réels, ce serait une erreur.
Est-ce qu'elle est seule là-haut, au sommet de ces montagnes, votre protagoniste? Au sommet de ces montagnes, désolé. Eh ben non, il y a une rencontre, un ermite, un moine. Eh ben non, c'est pas un ermite. C'est une autre femme, une nonne, tout aussi déjantée, tout aussi mystérieuse qu'elle. Pourquoi avoir organisé cette rencontre?
Je pense qu'elle s'est un peu imposée, cette rencontre. Qu'il y avait cette ermite, de toute façon, dans ce livre. Cette autre, cette sorte de double, mais plus avancée dans la 16, ou plus hors-jeu encore. Et de façon avec moins de moyens, encore moins de moyens, beaucoup moins de moyens, quelque chose de plus archaïque. Et on ne sait pas au début si ce moine, c'est un tas de laine, une roche ou un humain. Et d'ailleurs, cette espèce de confusion lui fait peur, hein, au premier abord, à ma narratrice. Je pense que cette rencontre se fait pour rendre la 16 vraiment complète. Et qu'il n'y ait pas, dans cette retraite, un évitement de l'autre. Mais au contraire, un creusement de cette question de la relation humaine.
Il s'agit de la relation humaine, il n'y a pas de questionnement d'ordre spirituel ou mystique dans votre livre.
Pas du tout.
Et pourtant, quel bel endroit pour se poser aussi ce genre de questions.
Oui, la seule question, le seul moment où on peut se dire il s'agit aussi de ça, c'est que cet autre ermite a des produits très très forts, un rhum particulièrement puissant qui provoque des visions, disons assez globales, qui pourraient ressembler à des extases mystiques. Mais est-ce que c'est vraiment ça? On peut se demander aussi si c'est pas une immortelle ou un bienheureux, si c'est pas non plus juste un hippie ou un berger, une bergère. Un petit peu décalé, mais... mais voilà, c'est les seuls... Il y a évidemment toutes ces entrées, mais c'est beaucoup plus la question éthique et de conduire sa vie, en fait, qui m'intéressait plus que le religieux ou le mystique.
Conduire sa vie?
Mm-hmm.
C'est-à-dire?
Eh bien, c'est aussi une histoire de rapport au risque, dont il est quand même beaucoup question. Et comment, en fait, risquer sa vie sans la mettre en danger? Et comment, en fait, le fait de ne pas vouloir prendre de risques jette la vie du côté du danger et de la panique. Et je pense que c'est beaucoup ça qu'elle expérimente dans un premier temps. C'est que le risque, il faut le prendre, et de toute façon, elle l'a pris et mesuré. Parce que quand on le prend, on le mesure. On n'est pas dans la pulsion ou dans la fuite. Et dans le deuxième temps, elle se rend compte que prendre le risque de la relation humaine, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire. Mais pas n'importe laquelle.
Et pourquoi il n'y a pas de passé et pas de futur dans le présent de cette femme?
Sûrement parce que c'est un moment clé d'articulation qui se vit complètement au présent et qui n'a à se vivre qu'au présent. Ça fait partie de ce qu'elle dit. C'est, de toute façon, on ne vit que le présent. Donc on se concentre sur sa respiration, sur son pas, sur ses réflexions. De toute façon, on ne le fait qu'au présent.
Et s'il fallait expliquer le grand jeu, le titre de votre livre, Céline Minard, c'est quoi le grand jeu de la vie?
Je crois que c'est de la vivre.
Là, c'est vous qui parlez?
Aussi.
Je vous ai demandé de ramener une musique avec vous, une musique qui vous aurait accompagné lors de l'écriture de votre roman, ou cet été, et vous avez choisi les Partitas de Bach par Julia Fischer. pourquoi ce choix, Céline Minard ?
Parce que c'est une musique que j'ai entendue sur le film Le Mur Invisible, qui est inspiré d'un livre qui s'appelle aussi Le Mur Invisible de Marlène Haushofer, que j'ai lu pendant que j'étais en train d'écrire Le Grand Jeu, et qui est un roman très plein de météo, où les éléments sont extrêmement importants. Et il y a une certaine résonance entre ce livre et celui que j'étais en train de faire, et cette musique était la bonne.
Un coup de rétroviseur, Céline Minard. Vous vous souvenez peut-être de notre premier tête-à-tête à la radio? Non? C'était il y a à peu près 10 ans. En tout cas, c'était à la sortie de votre roman Le Dernier Monde, chez De Noël. Et déjà, il s'agissait d'une histoire de vide. Un astronaute qui revient sur Terre et qui trouve la planète vidée de toute humanité. Écoutez ce que vous me disiez à l'époque.
En tant qu'écrivain, j'ai tendance à m'oublier, quoi. Je rentre dans des espèces de transe enfin de transe assez calme, hein, mais qui me mettent dans la peau du narrateur.
C'est parti d'où cette idée de raconter, bon voilà, le dernier monde, quoi.
C'est parti aussi d'une lecture que j'avais faite d'un ouvrage de Schill qui s'appelle Le Nuage pourpre, et qui est la même histoire, hein. Mais lui, dans sa deuxième partie, reconstruit l'humanité, il retrouve une femme sous les gravats, et puis hop, c'est reparti. Et je voulais vraiment, enfin, le défi, c'était de ne pas faire repartir cette histoire d'humanité, d'espèce, etc., et d'avoir un personnage qui assumerait, enfin, en tout cas, qui vivrait complètement l'extinction de cette espèce-là.
L'extinction de l'humanité, Céline Minard, c'est un sujet qui vous préoccupe, qui vous inspire, qui revient vous hanter. Il y a toujours ça, un roman qui vous inspire, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a perdu en 10 ans ? Peut-être le nom des protagonistes, parce que là, l'astronaute, on avait son prénom, il s'appelait Stevens. Là, dans Le Grand Jeu, votre dernier roman, chez Rivage, elle n'a même pas de nom, votre protagoniste.
Non, elle n'a pas de nom. Mais je pense que le dernier monde, c'était aussi, entendu, il s'agit de l'extinction de l'espèce humaine, mais c'était aussi, surtout, un roman de la mémoire collective, de la mémoire, pas du présent. Précisément pas du présent, plutôt du passé et de l'épaisseur historique du passé humain, quoi, de l'épaisseur quand même assez vaste. Là, c'est du présent pur, presque. Et l'espèce humaine n'est pas du tout en train de s'éteindre. Simplement, on s'en retire. Mais c'est vrai que je pense qu'une des choses qui revient souvent dans mes problématiques, c'est l'articulation de l'individu avec le collectif. Et ça prend des formes diverses et variées, mais il y a souvent ça comme noyau.
Et il faut passer par l'isolement ?
Non, je pense qu'il faut passer par des contrastes. Et la montagne est un milieu très, très contrasté et très rapide.
Le Grand Jeu est votre 10e roman paru chez Rivage. C'est mon premier coup de cœur littéraire. Merci Céline Minard d'être passée ce matin.
Merci Toufik Akev.
Vous pouvez réécouter cet entretien avec Céline Minard en passant par franceculture.fr. Et vous pouvez même vous abonner au podcast de Pas au Double. Demain, je serai avec la photographe Sabine Weiss.